Bonjour, je sais que vous avez tous hâte d'entendre la présentation sur le nouveau mécanisme multicentrique. Je vais essayer de faire ça rapidement. De toute façon, il y a certains éléments de ma présentation qui ont été déjà soulevés par la présentation que vous venez de voir. Donc, je vais vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt à ce que je sache pour cette présentation. Est-ce que ça va pour le son? Oui, OK. Ça marche comme ça? Non? OK. La suivante, comme ça, d'accord. Donc, le but, l'idée de cette présentation, c'était de vous soumettre un cas qu'on a eu au comité d'éthique de la recherche du CHU de Québec et la petite réflexion qu'on a eue autour de ça. Donc, on voulait partager ça avec vous. Je dis « on » parce que Maître Delory a aussi contribué à la présentation. Et peut-être ensuite avoir un peu votre point de vue. Est-ce que quelqu'un d'autres a eu des questions comme ça, ou peut-être juste lancer ça puis voir qu'est-ce que ça peut donner par la suite dans ce domaine. Donc, le plan de la présentation, je vais vous faire la courte description du cas, la réflexion, qu'est-ce qu'on a trouvé un peu dans la réglementation à ce sujet, un petit survol de la littérature et à la fin, quelques points pour la discussion. Donc, la description du cas. Il s'agit d'un projet de recherche qui a été déjà approuvé par le comité d'éthique. Quelques temps après, on a eu en forme d'amendement un ajout de documents qui présentait l'affichage web pour ce projet, et l'affichage se faisait par la compagnie pharmaceutique. Donc, il s'agissait d'une étude, excusez-moi, qui était subventionnée par une compagnie privée. Une fois que les affiches, c'était toute forme d'affiches, il y avait des bannières un peu plus, avec un texte un peu plus complet, ou juste le titre de l'étude. Une fois que les personnes voyaient la bannière ou le texte sur Internet, il y avait l'information soit en cliquant dessus ou en ayant l'adresse pour aller consulter le site de l'étude. Et sur le site de l'étude, ils pouvaient compléter un questionnaire pour connaître l'éligibilité à l'étude. Et une fois que le questionnaire aurait établi cet aspect, ils pouvaient trouver un site de recherche avec leur propre code postal, donc dans leur région, où ils pouvaient s'adresser pour participer à l'étude. Mais ça, c'était une des stratégies de recrutement, parce qu'il y avait aussi le volet appelé au téléphone. Donc, c'est juste... comme on l'avait vu au départ dans l'étude, il y avait aussi, évidemment, la possibilité où les chercheurs cliniciens y recrutent parmi leur clientèle dans cette étude. Donc, une fois que la personne a trouvé son site de recherche... Par la suite, ça se passe comme d'habitude. Donc, la personne se présente, tout est vérifié, les critères d'inclusion-exclusion, et le consentement est demandé par l'équipe de recherche aussi du recrutement. Le comité, devant cette situation, s'est posé la question du rôle qu'il y a dans l'évaluation de ce type de recrutement et du poids qu'il y a dans la négociation avec la compagnie s'il y a des choses à modifier sur ce site, étant donné l'étendue de ce type de recrutement. On l'a vu tantôt, on peut, en utilisant une page web, ça peut rejoindre toute la planète, tout le monde francophone. Donc, on ne savait pas trop jusqu'où nous, on pouvait aller dans ces demandes. Donc, évidemment, quand on parle du rôle du comité d'éthique, on sait que le comité d'éthique a le rôle d'évaluer l'aspect éthique et scientifique d'un projet de recherche et peut émettre des commentaires au besoin. Évidemment, l'évaluation se fait de façon proportionnelle au risque qui est impliqué dans l'étude. Et on dit aussi que il y a la possibilité pour le comité d'éthique d'exiger des modifications et évidemment de l'autre côté la possibilité du chercheur d'être entendu pour répondre à des questions ou des commentaires. Bon, de façon générale, c'est ça. Quand il s'agit en particulier des stratégies de recrutement, on veut voir c'est quoi le type d'affichage. Est-ce que c'est un affichage papier? Donc ça, on connaît tout ça, les petites affiches qu'on met dans nos établissements. Est-ce que ça se fait via des journaux? Est-ce que c'est par courriel? Évidemment, on se pose la question du message, puis ça, on l'a vu très bien avec toutes les conférences sur la littératie. Quel est le langage? On va pas utiliser des objectifs littéralement transcrits du protocole. Le vocabulaire, est-ce qu'on utilise nouveaux traitements ou traitements expérimentaux? Bon, bref, les images, l'écriture. Faut que les informations pertinentes pour l'étape du recrutement soient là, par exemple les personnes ressources, et que les informations soient exactes et vraies, et tout ça évidemment dans le but de protéger contre la tromperie et contribuer à une meilleure information possible. Dans le cas du recrutement par le web, puis on l'a vu un peu dans la présentation de tantôt, en fait, les particuliers, ce qui est particulier, c'est de savoir où est-ce que ça va être placé. Comme nous, on a eu plein de les images de bannières qui vont être placées, mais c'est difficile de savoir sur quel site elles vont apparaître, dans quel contexte ça apparaît, sur quelle interface. Et c'est qui va avoir accès à cette information? Qu'est-ce qu'on comprend de cette information? C'est beaucoup plus difficile à contextualiser que dans le cadre d'un affichage traditionnel auquel on est habitué. Par exemple, on peut se poser la question, est-ce qu'on a tous déjà vu ça, ou on envoie un courriel et selon les mots-clés qu'on utilise dans notre courriel, on va avoir des publicités juste à côté, ou encore les recherches qu'on fait sur nos moteurs de recherche vont nous amener des annonces. Une question qu'on s'est posée, bon, c'est le rapport, puis ça me fait penser beaucoup aux discussions qu'on a autour de banques, c'est de quelle source est l'annonce? Est-ce que c'est une source locale ou quelque part à l'international? Parce que c'est beaucoup, on a plus d'emprise sur une source locale, par exemple un chercheur comme celui qu'on a vu tantôt, de lui dire, mais assurez-vous de faire ça comme ça, comme ça, réfléchissez à ces points-là. Alors que c'est beaucoup plus difficile de faire la même chose avec une compagnie qui est à l'extérieur. Ça peut être privé, mais ça peut être aussi académique. Mais quand c'est à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile. Puis, en fait, parlant de qualité, parce que c'était un peu le but de ces journées, c'est de s'assurer d'avoir le même type d'évaluation pour un chercheur local que pour une compagnie pharmaceutique. Donc, puis pourquoi ça me fait penser aux banques, c'est que dans le cadre des banques, on l'a vu ce matin, il y a beaucoup d'encadrement quand il s'agit des banques académiques, des banques locales, mais quand je dis locales, ça peut être au niveau provincial, au niveau national, et on a beaucoup moins de contrôle sur ce qui se passe dans le domaine privé, ce qui se passe à l'extérieur, et c'est à peu près peut-être un peu la même chose dans ce cas-ci. Donc, et il y avait un autre enjeu dans ce cas-ci, c'était la protection de la confidentialité, parce qu'il y avait un questionnaire qui était complété en ligne. Donc, où est-ce que sont conservées ces données, comment, pour quelle durée? Ensuite, bon, mais le type de protection, puis on parlait tantôt des différents types de liens qu'il peut y avoir entre les transactions des internautes. Donc, il faut toujours s'assurer que l'information soit transmise d'une façon sécuritaire, ce qui est quand même difficile de le faire quand il s'agit d'affichage et de Facebook ou d'autres choses. Donc là, avec ce problème, on s'est dit, on va aller voir qu'est-ce qu'on a au niveau de la réglementation pour essayer de se positionner un peu. On a trouvé deux textes, celui de la FDA américaine et le HRP. Donc, la FDA dit que, bon, ça, c'est pas nouveau, le comité d'éthique doit évaluer les méthodes et le matériel utilisé pour les fins de recrutement, y compris ce qui se passe sur le web. On nous dit, par contre, qu'il n'y a pas besoin d'approbation éthique des annonces affichées sur le site web où il y a juste les éléments suivants qui figurent, le titre, but de l'étude, résumé, critères d'éligibilité, le site de recherche et la personne de contact. On nous dit aussi qu'il y a une possibilité d'évaluation déléguée. Ça aussi, bon, on se fie à l'énoncé politique des trois conseils pour. Je vais juste pas bousiller les choses, je vais déplacer ça. Et on nous dit, bon, faut faire attention lors de cette évaluation de l'influence indue, donc tout ce qui peut amener à ça. La présentation de l'essai comme un traitement, donc est-ce que ça va être plus un traitement expérimental qu'un nouveau traitement. Le vocabulaire qu'on utilise et évidemment la protection de la confidentialité. Et ce que moi je trouvais très important, c'était de nous amener à voir, puis probablement c'est là la difficulté un peu, de nous amener à voir la publicité comme un début du processus de consentement. Donc on a soulevé plusieurs fois hier et aujourd'hui le fait que le consentement, c'est pas une signature seulement, c'est un processus et ça commence par la publicité qui va recruter. Le HRP dit sensiblement les mêmes choses. Donc, le comité d'éthique doit évaluer les sites web. Bon, il n'y a pas d'approbation éthique pour les sites web donc ils reprennent vraiment les mêmes éléments. Donc, je suis passée par-dessus ça. Et encore, donc tout ce qui dépasse ce qui vient d'être nommé, donc les éléments de base, est considéré comme faisant partie du consentement, donc du consentement comme processus et doit être évalué et approuvé par un comité d'éthique. Et on fait attention bon, au rapport du risque-bénéfice, aux incitatifs, au caractère volontaire du consentement par la suite. Et il attire l'attention particulièrement sur les questionnaires d'éligibilité, de s'assurer de protéger la confidentialité des données. Avec ça, on se dit, bon, mais on va voir aussi est-ce qu'il y a eu des études, est-ce qu'il y a eu des réflexions dans la littérature à ce sujet. J'ai fait une petite recherche par mots-clés sur PubMed, donc j'ai eu à peu près 160, 170 articles, mais il y avait beaucoup de doublons là-dedans et c'était assez large aussi comme mots-clés, donc ça m'a donné beaucoup d'articles qui étaient plus en lien avec la présentation que vous venez de voir, donc plus en recherche sciences sociales, ou encore des études qui présentaient comme méthode de recrutement ou de collecte de données en ligne, par exemple pour un sondage, mais vraiment en lien avec le recrutement en ligne par les compagnies pharmaceutiques, parce que c'est ça qui m'intéressait. Il y avait juste 5 articles que j'ai trouvés, et les 5 faisaient référence à 2 études que je vais vous présenter rapidement. Donc, la première, c'est le département de santé des États-Unis qui, en 2002, a fait une analyse de 22 sites où on présentait 110 essais cliniques. Et un des résultats, c'était qu'aucune annonce ne mentionnait les risques potentiels de participation à l'essai clinique. Suite à ça, donc il y a eu ce que la réglementation que le cadre normatif du HRP et Clidman et son équipe, ils ont fait une autre étude probablement dans 2006-2007 parce qu'ils l'ont publié en 2008 où ils voulaient voir si c'est quelque chose qui a changé depuis. Et donc, ils ont recensé 355 essais cliniques, deux types. Ils ont choisi juste deux types d'études sur le diabète et la dépression. Et en gros, si vous allez dans la publication, vous allez avoir il y a un tableau où ils présentent tous les critères et qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Mais en gros, 38% des études faisaient une présentation inégale du rapport risque-bénéfice. Il y avait 0 étude qui mentionnait les risques potentiels, encore une fois. Il y a une seule étude qui parlait d'effets secondaires, mais en disant qu'il n'y en a pas. Et environ 40% parlait de la durée de l'étude, 25% mentionnait le nombre de visites prévues, et environ 50% d'études avaient présenté, en fait, pas d'études, mais des résumés, d'affiches, présentaient un incitatif, par exemple, en disant, bon, il va y avoir tel montant d'argent, ou encore la médication est gratuite, des choses comme ça. Donc, de façon générale, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a un nouveau concept hein, qui est le recrutement en ligne. Donc, en anglais, on va le trouver plus de cette façon-là. Et en fait, ce que ça nous amène, ça nous dit, bon, ben, on l'a vu tantôt, les chercheurs, les compagnies aussi, sont très excités à l'idée de pouvoir utiliser ce nouveau moyen de recrutement parce que ça coûte moins cher. Mais est-ce que c'est vraiment une nouvelle réalité? C'est pas très discuté, mais par contre, j'ai vu qu'il y avait déjà dans la fin des années 90, on avait un article dans IRB à ce sujet. Et au début de 2000, moi, je suis tombée sur 2 articles de marketing management qui essayent d'expliquer aux compagnies pharmaceutiques que c'est très important d'adhérer à ce nouveau moyen de recrutement, que ça amène plus de recrutement, moins de frais. Évidemment, mais c'est une opportunité d'affaires pour des compagnies qui vont rendre service aux compagnies pharmaceutiques en vendant ce type de service. Et c'est une belle façon de voir le marketing en l'alliant au recrutement. Et par exemple, je citais un auteur qui parlait d'un groupe, Medici Group, qui disait en 2003 qu'il pouvait augmenter de 20 à 30% le recrutement. Mais puis là, j'ai mis la citation en anglais du courtier qui disait, mais tout est capturé sur Internet. Et donc, il faut vraiment être attentif à ça et conscient. Mais est-ce que nous, puis là, moi, je pose la question pour les comités d'éthique, mais elle est valable aussi pour le monde de la recherche. Est-ce qu'on a le niveau de littératie pour prévoir ça, pour y penser, pour se poser les bonnes questions par rapport à ça? 2 minutes, OK. Un clic sur une annonce de recrutement, puis je veux revenir à la protection de la confidentialité. C'est que souvent, les gens, parce que c'est intéressant de dire, on a le chercheur devant nous, puis on va lui dire, fais attention au moment de ton recrutement, de ne pas faire ci, ça, ça. Mais quand tout se passe avant que ça arrive chez nous, toutes ces personnes-là, nous, on n'est pas. C'est comme si on n'a pas de pouvoir pour les aider, mais c'est très important parce que quelqu'un qui va cliquer sur une étude sur le VIH, c'est très probable qu'il va être retracé par son adresse IP, par sa région géographique. Ensuite, s'il est en même temps, il est connecté sur Google puis qu'il a déjà un profil là-dessus, bien, toutes ces informations personnelles qui sont sur ça vont être associées. Puis, il y avait une étude, justement celle que je viens de citer, Courtis, je pense qu'il parlait d'une étude qui a utilisé DoubleClick, qui est un service de Google qui garde tout. Puis c'est écrit dans leur politique de confidentialité. On garde tout, on fusionne après les données pour ensuite les vendre ou bon, vendre des services plutôt à d'autres compagnies. Donc, c'est tout un monde qui nous échappe, à mon avis, mais probablement qu'on va se poser des questions. Puis, bon, finalement, il y a la question du recrutement, consentement. Est-ce que la fiche de recrutement, c'est pas un consentement, évidemment. On s'attend pas à ce que toute l'information du formulaire de consentement soit là, mais il faut quand même le voir comme une étape dans le processus de consentement et que l'information qui soit là, elle doit être pertinente et refléter justement le rapport risque-bénéfice. Donc, un point qu'on a soulevé dans notre réflexion au comité, c'était de dire les compagnies pharmaceutiques, maintenant, vont avoir un accès direct aux patients. Donc, ce qui se faisait plus dans la clinique avant, donc là, ça sort à l'extérieur. J'ai l'impression que, puis je m'adresse à vous parce qu'il y a des chercheurs dans la salle, ce serait intéressant peut-être d'avoir des recherches, parce que moi, ce que j'ai trouvé, c'est plus cité aux États-Unis, ce serait intéressant peut-être de voir ici, d'avoir d'autres études, puis plus récentes. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir une prise de position provinciale ou fédérale à ce niveau-là. On va parler du mécanisme multicentrique tantôt. Probablement qu'un comité d'éthique évaluateur, j'ose l'espérer, va avoir un peu plus de poids devant une compagnie pharmaceutique pour. J'apporte un bel avantage pour le nouveau mécanisme. Puis je reviens au point que je trouve que c'est très important qu'on ait les mêmes exigences pour la recherche, qu'elle soit de source locale ou internationale. Quoique c'est difficile, c'est là le défi. Et concevoir le recrutement comme un début du consentement. On a besoin des experts en informatique sur le comité pour pouvoir comprendre tout ça et se former plus en évaluation des sites web et tout ce qui entoure ça. Merci.